de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La Chine lance une mission sur Mars ». L'Association des étudiants indonésiens du Royaume-Uni, ou PPIUK, apprécie les étudiants indonésiens impliqués dans la recherche sur le vaccin Oxford COVID-19. 99 réfugiés rohingyas à Aceh sont officiellement protégés par le HCR. Le cas de COVID-19 augmente. L'Oman applique le confinement avant l'Eid al-Adha. L'aide de 100 ventilateurs américains est arrivée en Indonésie. L'Indonésie développe le vaccin COVID-19 avec la Corée du Sud. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. La Chine a lancé sa première mission indépendante sur Mars jeudi dernier. Cela est devenu une étape importante dans ce pays pour construire un programme spatial de classe mondiale. La Chine a envoyé un vaisseau spatial nommé Tianwen-1 qui a été lancé à partir de la fusée Long March 5. Le processus de lancement s'est déroulé à Wenchang, sur l'île de Hainan. Rapporté par la page de South China Morning Post, Tianwen-1 devrait atteindre le champ gravitationnel martien en février 2021. Tianwen-1 utilisera une combinaison de capsules, de parachutes et de fusées rétro pour brûler la vitesse d'entrée et le ralentir pour atterrir en un point à la surface de Mars. Tianwen-1 devrait effectuer la mission pendant au moins 90 jours. Il étudiera la surface, l'atmosphère, l'ionosphère et les champs magnétiques de la planète. L'Association des étudiants indonésiens du Royaume-Uni, ou PPIUK, remercie un étudiant indonésien pour son implication dans la recherche sur le vaccin COVID-19 mené par l'Université d'Oxford. Indra Rudiansyah est un étudiant indonésien qui étudiait pour un doctorat en médecine médicale à l'Université d'Oxford et qui a rejoint l'équipe de développement du vaccin COVID-19 de l'université lorsque la pandémie a commencé. Selon PPIUK, dans le téléchargement avec la lettre d'ouverture FIER sur le compte de médias sociaux officiels consulté par Antara à Jakarta jeudi dernier. Le lundi 20 juillet, Les chercheurs ont déclaré qu'un vaccin potentiel pour COVID-19 développé par Oxford avec une licence de la société AstraZeneca a montré des résultats prometteurs dans les premiers essais sur l'homme. Pas moins de 99 migrants rohingyas venus du Myanmar et secourus à Aceh à la mi-juin ont été officiellement réfugiés sous le mandat de protection de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ou HCR en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi lors d'une conférence de presse virtuelle de Jakarta jeudi dernier. Les réfugiés composés de 72 femmes, 31 adultes et 41 enfants et 27 hommes, 16 adultes et 11 enfants, ont été déclarés en bonne santé et ont été testés pour le COVID-19 non actif. Selon Retno, la supervision du protocole COVID-19 continue d'être appliquée, en particulier dans l'interaction entre les réfugiés rohingyas et les communautés locales à l'Oksumawe, Aceh. En ce qui concerne spécifiquement les enfants, le HCR et l'UNICEF ont procédé à des tests d'évaluation des intérêts et fourni un soutien psychosocial avec l'aide de plusieurs organisations non gouvernementales expérimentées sur le terrain. Le sultanat d'Oman a annoncé qu'il imposerait des couvre-feux et des confinements du 25 juillet au 8 août car le nombre de cas d'infection de COVID-19 dans le pays continue d'augmenter. Comme rapporté par Middle East Aid, citant l'agence de presse Oman ONA jeudi dernier. Le ministère omanais de la Santé a déclaré que toutes les frontières provinciales seraient également complètement fermées. Cela signifie que les habitants commémoreront l'Eid al-Adha au milieu du confinement. Oman a maintenant fermé les frontières aériennes et terrestres, à l'exception du processus de rapatriement de la population. Les résidents qui souhaitent revenir doivent avoir un permis. À ce jour, le nombre total de cas positifs de COVID-19 a atteint près de 70 000 personnes, avec 337 patients décédés. Une centaine d'unités de ventilateurs en provenance des États-Unis est arrivée en Indonésie mercredi dernier. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse virtuelle à Jakarta que c'était la première étape de l'envoi d'un total de 1000 unités de ventilateurs qui arriveraient progressivement. La fourniture d'une assistance ventilatoire par les États-Unis a été réalisée sur la base de pourparlers entre le président Joko Widodo et le président Donald Trump en avril dernier. Outre les États-Unis, l'Indonésie a également reçu le soutien de 100 unités de ventilateurs du gouvernement australien. Les ventilateurs australiens qui sont arrivés à Jakarta mardi seront remis au chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes en tant que président du groupe de travail sur la gestion du COVID-19. Jusqu'à présent, l'Indonésie s'est associée à 120 parties se composant de 11 pays, de 12 organisations internationales et de 97 partenaires non gouvernementaux pour faire face à la pandémie mondiale. En plus de collaborer avec la Chine, l'Indonésie, par le biais de PT Kalbe Pharma, collabore avec une société sud-coréenne, Genexin, pour développer le vaccin de COVID-19. La collaboration de Kalbe Pharma avec Genexin de Corée du Sud utilise une plateforme de type de vaccin à l'ADN. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi lors d'une conférence de presse virtuelle de Jakarta jeudi dernier. Selon elle, l'ambassade d'Indonésie à Séoul a facilité les discussions sur la coopération entre les deux entreprises depuis juin dernier. Genexin mène un essai clinique de première phase du vaccin de COVID-19 en Corée du Sud jusqu'en août prochain. Tandis que les essais cliniques de la deuxième phase seraient commencés en Indonésie en septembre ou octobre 2020. les détails de la coopération pour le développement de vaccins entre Calbee Pharma et Gnexin sont toujours en cours de discussion, y compris le nombre d'échantillons à réaliser pour les essais cliniques de la deuxième phase et d'autres arrangements. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et en pour le titre, la menace de récession en raison de COVID-19. Après s'être battu depuis décembre contre le COVID-19, de nombreux pays entrent désormais dans la phase de récession. L'Australie a annoncé que la croissance économique du pays diminuerait et que le déficit budgétaire serait le plus important depuis la guerre mondiale. Cette condition se produit en raison de l'impact de la pandémie du virus corona qui infecte le monde. Cité par l'AFP, le gouvernement a révélé que le produit intérieur brut au PIB de l'Australie se contracterait de 7% au deuxième trimestre ou la période d'avril au juin. Cette contraction poussera l'Australie au bord de la récession économique pour la première fois en près de 3 décennies. Le ministre des Finances, Josh Frydenberg, a déclaré que le déficit budgétaire augmenterait et le gouvernement avait injecté environ 289 milliards de dollars australiens de relance économique pour protéger le pays des effets de la pandémie. Ces fonds comprennent le soutien aux travailleurs, aux entreprises et aux retraités. Le taux de chômage en Australie est actuellement le plus élevé depuis 2 décennies, à savoir 7,4% et devrait culminer à 9,3% en décembre 2020. Outre l'Australie, la Corée du Sud a également connu officiellement une récession au deuxième trimestre, qui a été pire ralentissement économique du pays en plus de 2 décennies, les exportations ayant fortement chuté en raison de la crise de la pandémie du virus corona. Le directeur exécutif de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, ou INDEF, Tauhid Ahmad à Jakarta, a déclaré que ceux qui devraient connaître une récession au deuxième trimestre de 2020 sont les pays de l'Union européenne. Les récessions peuvent affecter un certain nombre de personnes qui perdraient leur emploi ou qui auraient plus de difficultés à obtenir de nouvelles opportunités et de promotions. Il y aura moins de postes vacants disponibles pour les nouveaux diplômés à la recherche d'un premier emploi. Ceux qui continuent de travailler ne peuvent pas connaître d'augmentation de salaire ou devoir travailler plus d'heures ou recevoir des retenues salariales. On espère que le gouvernement du monde entier sera prêt et capable de faire face à la récession économique qui s'est produite en raison de la pandémie de COVID-19. Pour que les effets indésirables causés puissent être minimisés et non prolongés. Serge Dutor, c'est le commentaire pour ce soir.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 24 juillet. Le 24 juillet 1911, la ville Machu Picchu a été découverte. Machu Picchu est un site des ruines du royaume Inca, situé dans une région montagneuse à une altitude d'environ 2350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Machu Picchu a été découvert par un professeur de l'Université Yale en Amérique nommé Hiram Bingham le 24 juillet 1911. Machu Picchu est le symbole le plus célèbre du royaume Inca. Il a été construit vers 1450, mais a été abandonné 100 ans plus tard lorsque les Espagnols ont réussi à conquérir le royaume Inca. Le site a été redécouvert par un archéologue de l'Université Yale, Hiram Bingham III, qui l'a découvert en 1911. Depuis lors, Machu Picchu est devenu une attraction touristique attrayante pour les touristes locaux et étrangers. Le 24 juillet 1923, l'accord de Lausanne était signé. L'accord de Lausanne était un traité de paix signé à Lausanne, en Suisse, le 24 juillet 1923. L'accord a officiellement mis fin au conflit entre le califat Osmania et les alliés de l'Empire britannique, de la République française, du Royaume d'Italie, de l'Empire du Japon, du Royaume de Grèce et du Royaume de Roumanie depuis le début de la Première Guerre mondiale. Le traité a été ratifié par la Turquie le 23 août 1923, la Grèce le 25 août 1923, l'Italie le 12 mars 1924, le Japon le 15 mai 1924, le Royaume-Uni le 16 juillet 1924. Le 24 juillet 1969, Apollo 11 est revenu sur Terre. Apollo 11 a été la première mission spatiale habitée qui a réussi à amener des humains sur la Lune et à y revenir en toute sécurité. Apollo 11 est l'un des projets de la NASA. Apollo 11 a été lancé le 16 juillet 1969 à l'aide de la fusée Saturn V et est arrivé sur la Lune le 20 juillet de la même année. Lors de l'atterrissage sur la Lune, le vaisseau spatial est piloté par Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins. Apollo 11 est revenu sur Terre le 24 juillet 1969 et a atterri dans l'océan Pacifique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri sampai kau cari aku. Aku baiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita? Ku bertahan karena ku ingin bertahan. Masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri sampai kau cari aku. Aku baiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita? Aku bertahan
jalan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri.
Stop, 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 stop.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter Mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement indonésien et suisse établissent une coopération pour la gestion des catastrophes. Le gouvernement indonésien et suisse ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine de la gestion des catastrophes à Jakarta mardi le 21 juillet 2020. Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Doni Monardo, qui représente le gouvernement indonésien, a déclaré que la Suisse était connue pour être à la pointe du développement de la technologie médicale et pharmaceutique, donc cette coopération est importante. Ce contexte est très utile pour l'Indonésie, en particulier pour gérer les catastrophes non naturelles comme la pandémie de COVID-19. Cependant, cette coopération bilatérale couvre également le contexte des catastrophes géologiques et hydrométéorologiques, à savoir les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les inondations, les tornades et les glissements de terrain. La Suisse est l'un des partenaires internationaux importants de l'Indonésie dans divers domaines et est désormais un partenaire dans la gestion des catastrophes. À travers de cette coopération, les deux parties espèrent apporter des avantages mutuels pour améliorer les services de gestion des catastrophes dans leur pays. Comme l'a déclaré Doni Monardo lors de la réception de l'ambassadeur de Suisse à Graha BNPB, Jakarta, mardi. Il apprécie vivement l'engagement du gouvernement suisse à soutenir le gouvernement indonésien dans la gestion des catastrophes. Doni est optimiste que ce mémorandum d'accord renforcera davantage les capacités de l'Indonésie et augmentera la résilience aux catastrophes. Ce protocole d'accord sera le cadre de la coopération entre le gouvernement indonésien et la Confédération suisse en matière de gestion des catastrophes. La coopération comprend des activités de recherche, l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance. La mise en œuvre de la coopération couvre également chaque étape de la gestion des catastrophes, à savoir avant, pendant et après la catastrophe. Par ailleurs, l'ambassadeur suisse Kurt Kunz a déclaré qu'en termes de catastrophe, la Suisse coopère également avec le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire en matière de gestion des catastrophes au niveau régional en Asie du Sud-Est. Selon lui, les relations diplomatiques entre la Suisse et l'Indonésie se poursuivent depuis longtemps et la coopération dans divers domaines, et à cette occasion, en particulier la gestion des catastrophes. Cette coopération durera 5 ans et pourra être prolongée avec les accords diplomatiques des deux parties. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
ku sadari kau yang dipilih bagi diriku, jalani hidup, jagakan cinta walau pahit terkadang. Kau yang ku cinta, selalu setia, bersahaja saat cinta hampa. Tak lagi berkata, dapatkah kita bertahan terus bersama? Menggapai harapan fajar yang akan datang, selalu mencinta. Dan hidup ini tak selalu mudah, kadang kelabu sesakkan kau. Namun hadirmu membuat
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Tradition de Bakar Ilo Sanggari de Nusa Tenggara West. En Indonésie, bien que l'Idulfitr était le 5 juin, l'atmosphère se fait encore à sentir jusqu'à 7 jours plus tard. Tout le monde veut certainement accueillir l'Idulfitr avec les traditions culturelles de leur région respective. Parce que l'Idulfitr est une porte de la victoire pour les musulmans après un mois de jeûne luttant contre le désir. Pour célébrer cette victoire, les habitants de la région de Nusa Tenggara West l'ont toujours accueilli avec enthousiasme. L'une de ces traditions importantes est la tradition de Bakar Ilo Sanggari. Bakar Ilo Sanggari est une sorte de fête qui accueille l'Idulfitr en brûlant Ilo Sanggari, constitué d'un morceau de bambou enveloppé dans un tissu auquel on a donné de l'huile de graines de jatropha. D'habitude, la tradition de Bakar Ilo Sanggari se pratique à la veille de Takbiran ou à la veille de l'Idulfitr. Les résidents affluent pour fabriquer Ilo Sanggari en coupant du bambou existant. Après avoir été brûlé, Ilo Sanggari a été installé à plusieurs endroits près de la maison, notamment dans la cour avant de la maison, afin de pouvoir en profiter pleinement. D'habitude, les personnes qui adhèrent encore à la tradition de brûler Ilo Sanggari croit que ses ancêtres se rendront dans sa maison. Ilo Sanggari est considéré comme une lame facile à voir par les ancêtres. La communauté croit que l'arrivée d'ancêtres peut apporter des bénédictions et une fortune au jour de la victoire ou de l'Idulfitr. Chers amis, c'était le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
Masa di mana kita bersama, ku buka lembar demi lembar buku ingatan kita dulu. Ku berbisik dalam benak ini, dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu. Tak terasa tetesan air mata cahaya nafas.
dan surat ini ku berharap ku sentuh dirimu, kau yang terindah dalam hidupku. Namun masa itu telah berlalu.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Serge Littard, bonsoir. On se rencontre encore dans la rubrique l'Indonésie en couleur. Et vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois, vous allez écouter l'information sur innovation de savon liquide de PAM par l'université IPB. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie. Chers amis, actuellement, le cas de la propagation du coronavirus ou bien COVID-19 est de plus en plus répandu. Diverses tentatives ont été faites pour empêcher et ralentir la propagation du virus. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le personnel médical du monde entier conseillent aux gens de se laver les mains avec diligence pendant au moins 20 secondes. D'après les informations, se laver les mains avec du savon pendant 20 ou 30 secondes est plus efficace pour nettoyer les bactéries, les germes, y compris les virus, que l'utilisation de désinfectants pour les mains. Par conséquent, le lavage des mains est une chose très importante à faire pour prévenir la propagation du coronavirus, en particulier en utilisant un savon équipé d'antibactériens. Cependant, certains produits chimiques utilisés comme ingrédients de savon antibactérien, comme le chlorure de benzalkonium, le cloxyclénol, l'hypochlorite de sodium et la chlorhexidine peuvent provoquer une irritation de la peau lorsqu'ils sont utilisés en quantités excessives. Chère amie, Madame Erlisa Hambali, professeure à l'Université IPB, et l'équipe innove pour produire du savon liquide à base de surfactant de palme avec un matériau antibactérien de fumée liquide résultant du processus de pyrolyse de la coquille de noix de coco. Le professeur Erlisa a expliqué que ce savon liquide antibactérien innovant sera fabriqué à partir de matériaux écologiques, renouvelables et abondants. Les matériaux comprennent un tensioactif méthyl ester sulfonate, ou bien MES, d'huile de palme, un tensioactif à base d'huile de palmis, PKO, ou de noix de coco, CNO, et du glycérol de palme. Les produits fabriqués utilisent également des ingrédients actifs antibactériens qui sont sûrs et respectueux de l'environnement provenant de la fumée liquide provenant du processus de pyrolyse de la coquille de noix de coco. Chers amis, les contenus liquides de la fumée des noix de coco peuvent être utilisés comme ingrédients actifs antibactériens dans le savon liquide. En plus d'avoir des avantages comme protection personnelle contre les bactéries et les virus, ce savon liquide de palme peut également adoucir la peau car il utilise le glycérol de l'huile de palme et peut maintenir l'hydratation de la peau. Parce qu'il utilise le glycérol du palmier comme ingrédient hydratant naturel. Le produit résultant peut être utilisé comme savon de bain ou savon pour le lavage des mains. En utilisant de l'huile de palme étant capable de nettoyer la saleté de la peau et en ajoutant du glycérol de palme, ce savon peut se nettoyer et se protéger des bactéries et des virus, empêcher la peau de se dessécher et rester douce et humide. Chers auditeurs, c'est tout. La rubrique L'Indonésie en couleur pour ce soir, intitulée Innovation de savon liquide de palmier par l'Université IPB. Merci beaucoup d'avoir écouté notre programme. Au revoir.
Kau ceritakan, kamu telah ku nanti. dari lubuk hati. Aku takkan pergi sampai mati, tetap di sini.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Chers amis, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun antoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!